7h23 minutes. Vous savez que nous avons invité les chefs des partis politiques à l'émission pour répondre à nos questions. Et ce matin, on reçoit le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bien le bonjour, un plaisir d'être ici.
C'est une campagne intense pour tous les chefs, mais pour vous en particulier, dans la mesure où vous êtes arrivé donc à la tête du Bloc québécois. C'était un parti qui était divisé, c'était un parti qui était désorganisé. Là, on regarde le résultat qu'on présume dans les sondages, il faut être prudent. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je retiens assurément le mot « prudent ». J'ai voulu essayer, peut-être assez réussi quand même, à maintenir une notion d'humilité, d'une certaine modestie, parce qu'effectivement, on partait de loin, puis on avait perdu la confiance des gens. On a passé les premiers mois jusqu'au début de la vraie campagne à se faire redécouvrir, à donner des mains, rencontrer des gens, puis on sentait pas que ça faisait tant que ça bouger l'aiguille des sondages ou des intentions de vote. Quand la campagne a commencé, puis que l'attention des gens s'est vraiment tournée vers la campagne, je pense que la confiance dans le Bloc québécois puis la capacité du Bloc québécois de porter le désir de respect que les Québécois ont face à l'encontre avec le fédéral, selon le
cas, je pense que ça a marché. Est-ce qu'il y a un événement, selon vous, là, qui a été déclencheur?
Je pense que les sondages, les débats ont vraiment été le moment clé parce que sans interférence, sans filtre, on pouvait s'adresser directement à des centaines de milliers, puis si on suit sur les chiffres, à plus d'un million de Québécois qui sont ceux qui sont les plus politisés, les plus influenceurs dans leur milieu respectif. Je pense que ça a été un virage majeur. On avait peut-être une certaine sympathie auparavant, mais on pouvait mettre de l'avant, essayer d'insérer à travers le format des débats, des propositions aussi claires que possible. Puis par la suite, les gens pouvaient y revenir parce qu'on a vraiment fait une campagne puis on continue encore à faire des propositions tous les jours.
C'est François Legault qui est le politicien le plus populaire au Québec.
Clairement.
Avec un taux d'approbation très, très élevé. La stratégie du Bloc, c'est quoi? C'est séduire les électeurs de François Legault en disant « Vous avez voté pour lui, on partage les mêmes points de vue sur un paquet de questions, donc on est dans la mouvance de François Legault. »
C'est plus... La coalition Avenir Québec et le Bloc québécois sont dans la même mouvance jusqu'à un certain point. Ça s'arrête quand on parle de souveraineté, mais c'est pas l'enjeu de l'élection.
À part la souveraineté, y a-tu des points
de
désaccord?
On n'est pas accroché après la CAQ et assurément pas le contraire non plus. Nous sommes deux partis qui avons des positions nationalistes normales en matière de langue, en matière de laïcité, en matière de région, en matière de... C'est des positions nationalistes normales, mais personne ne les a portées au Québec pendant tellement d'années que les gens pensent que celui qui arrive en deuxième est accroché après celui qui est arrivé en premier. La réalité, c'est que c'est une convergence d'opinions naturelles de partis qui sont nationalistes, décomplexés de l'être. Et après avoir étiré l'élastique dans le sens contraire pendant tellement d'années, il y a peut-être un ressac important des Québécois qui disaient « on peut-tu se faire respecter? »
Vous dites, évidemment, il y a la question de l'indépendance, de la souveraineté, où là, il y a une différence, c'est clair. Est-ce qu'il y en a d'autres?
On peut penser... Mais je crois pas que ce soit irréconciliable qu'en termes d'environnement, je suis un peu plus intense que la coalition Avenir Québec, compte tenu de mon passé de militant écologiste, de ministre de l'Environnement. Peut-être un peu plus intense, mais il reste que je comprends très bien que mon successeur, Benoît Charrette, a subi le même genre de pression que moi j'avais à l'époque. Tu ne peux pas, comme ministre de l'Environnement, juste mettre de l'avant ton programme de militant écologiste si tant est que tu en sois un. Faut que tu composes avec un gouvernement qui, lui, est poigné avec des enjeux économiques, des pressions, des lobbies, puis beaucoup de choses. C'est sûr que moi, mes racines sont plus dans le milieu environnemental.
Le troisième lien à Québec, vous êtes favorable ou contre?
Le troisième lien à Québec, moi, je suis très content qu'il ait calé un BAP, passez-moi l'expression, parce que on va avoir une vision plus scientifique, plus rigoureuse, plus économique. J'ai pas...
Vous n'avez pas d'opinion sur le troisième lien?
Je me donne pas le droit. En fait, honnêtement, là, la vérité, là, c'est vrai que je suis pas contre, mais je suis pas profondément pour non plus. Je veux savoir ce qu'ils vont faire avec ça. C'est quoi le pourcentage de l'équipement qui va être pour du transport collectif? C'est une méchante de grosse question. Il y a plein d'éléments qu'on connaît
là,
pas.
C'est une réponse électoraliste que vous me donnez en pensant aux électeurs de Québec.
Est-ce qu'on a le droit d'être cohérent? Parce que pour moi, c'est une question de cohérence. Je suis l'ancien ministre de l'Environnement du Québec. J'étais responsable du bureau d'audience publique en environnement. Puis rappelez-vous que je suis arrivé après qu'on ait accusé mon prédécesseur de pas avoir respecté l'indépendance du BAP. Et là, je dis, est-ce qu'on peut attendre le BAP avant de trancher sur ça puis sur GNL? Puis là, on me dit que je manque de courage politique. Je manquerais de cohérence politique si je n'attendais pas le résultat du BAP. J'ai une espèce de curiosité suspicieuse par rapport au troisième lien et j'ai expressément dit que je n'ai aucune sympathie pour le gaz naturel et les hydrocarbures. L'avenir économique du Québec n'est clairement pas là.
Mais ça, donc, vous êtes prudent, on va dire, on comprend, il ménage le vote, là. Il ménage le vote de la région de Québec, le vote au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
J'ai très, très peu fait de la politique en disant je vais ménager des votes à gauche et à droite. J'ai toujours répondu franchement aux questions. Puis des fois, répondre franchement aux questions, c'est pas donner la réponse spectaculaire de l'heure, c'est dire je vais faire l'effort d'être cohérent par rapport à mon programme, par rapport à mes convictions, par rapport à ce qui reste la juridiction du gouvernement du Québec. Moi, je m'en vais à Ottawa pour protéger la juridiction de l'Assemblée nationale du Québec. Je m'en vais à Ottawa dire aux gens, écoutez, on ne défera pas à Ottawa ce qu'on vient juste de commencer à faire à Québec.
Mais quand on regarde le tableau, là, toujours en présumant que les sondages donnent un portrait fidèle de ce qui se passe actuellement, là, on aurait un gouvernement minoritaire, lequel, conservateur, libéral, ça reste à voir, et probablement que, si la tendance se maintient, le Bloc québécois va détenir un peu la clé de tout ça sur des projets. Là, j'ai compris que vous ne feriez pas partie d'un gouvernement de coalition, vous.
Clairement pas.
OK. Vous allez donc devoir, à la pièce, évaluer les projets de loi.
C'est le but. Ce qui arrive sur la table est bon pour le Québec, on va être pour. C'est mauvais pour le Québec, on va être contre. C'est ça l'engagement qu'on a pris face aux Québécois. Puis, entre les deux, la vraie vie, c'est qu'on va négocier à la pièce, puis vous faire ça, puis vous transformer ça. C'est sûr que sur le corridor énergétique, on va juste être franchement et irréconciliablement contre. Sur si Andrew Scheer était au pouvoir puis voulait abolir la taxe carbone, on serait évidemment contre et il prendra ses propres responsabilités. Mais il y a plein d'enjeux sur lesquels on est capable de se parler, on est capable d'aller chercher des avantages pour les régions du Québec, on est capable de s'assurer du versement des compensations pour les agriculteurs sous gestion de l'offre. On est capable de faire beaucoup de choses en collaborant à la pièce selon qui sera au gouvernement. Puis on peut même avoir des relations très cordiales. Si les Canadiens et les Québécois élisent un gouvernement en mosaïque très particulière, c'est peut-être parce que c'est ça qu'ils veulent. Puis c'est peut-être la demande en toute légitimité d'un Parlement qui va devoir apprendre à collaborer puis à se parler. C'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu maintenir une campagne positive puis propre parce qu'il va falloir qu'on parle à ce monde-là demain matin.
Mais selon vous, avec lesquels ça va être plus facile de parler? Les conservateurs,
ça dépend, ça dépend des sujets. Avec les conservateurs, faire avancer la déclaration d'impôt unique qui est voulue par tout le monde. Le NPD a la réserve des emplois. On peut prouver qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi. Et à cette condition-là, M. Singh a déjà dit qu'il serait d'accord. Les libéraux sont contre, mais les conservateurs sont pour. Je pense qu'on est capable de faire cheminer la déclaration d'impôt unique si c'est les conservateurs. Par contre, c'est les conservateurs au niveau environnemental, on risque de se pogner assez solide. Sur des enjeux plus sociaux, plus famille, ça se peut qu'on soit capable des fois d'aller arracher des avantages. Ça va être plus facile pour nous autres d'aller arracher des avantages pour les aînés du Québec face aux libéraux, à mon avis. Mais tout ça va se négocier à la pièce selon ce que les Québécois vont choisir. Est-ce qu'ils vont dire, OK, ça marche, celui qui va s'assurer d'aller chercher dans chaque dossier des gains pour le Québec, que ce soit n'importe qui, bien, on pense que ça peut être le Bloc. Et ça, c'est la question qui est dans les airs jusqu'à lundi. Mais les autres partis, s'ils n'ont pas l'intention de faire quelque chose de mauvais pour le Québec, ils n'ont rien à craindre du Bloc.
Mais ça veut dire aussi que si c'est un gouvernement majoritaire, vous êtes moins utile.
Le poids du Bloc dans des gouvernements majoritaires est toujours resté important parce qu'une élection en suit une autre. Tu ne peux pas passer 4 ans avec un fort contingent du Bloc à ne pas respecter le Québec puis t'imaginer que 4 ans plus tard, tu vas t'en sortir à la légère, haut la main. Ça ne se passe pas comme ça. Justin Trudeau vient de ne pas respecter le Québec pendant 4 ans. Il est en train d'en payer le prix. Alors qu'on soit majoritaire ou minoritaire, il faut respecter le Québec. Si c'est minoritaire, c'est sûr que ça nous donne un levier beaucoup plus concret, mais peut-être, ce n'est pas mon vœu, pour une période moins longue.
Mais en même temps, je comprends les dossiers québécois, mais il y a des dossiers qui sont autres que québécois. Trudeau n'est pas en difficulté strictement en raison de ce qui se passe au Québec, là.
C'est exact. Il y a beaucoup de choses, sauf que je ne pense pas que les Québécois vont voter en fonction des dossiers de la Colombie-Britannique. Tu sais, c'est chaque région du Canada va avoir ses propres enjeux. Puis le manque de respect de M. Trudeau n'est pas réservé au Québec. Il est particulier au Québec. Sa volonté expresse de contester la loi 121 sur la laïcité de l'État québécois, c'est les Québécois que ça heurte. Mais bien sûr qu'il y a des positions qu'il a prises qui dérangent beaucoup dans l'Ouest canadien aussi. C'est au cas par cas. Et son mépris des institutions lui fait mal partout au pays.
Il y a encore beaucoup de gens, là, je le vois dans des courriels, puis c'est dur à quantifier, mais qui se demandent toujours, à la veille d'un scrutin, le Bloc ne prendra pas le pouvoir, vous ne serez pas premier ministre du Canada, vous ne voulez pas de toute façon être premier ministre du Canada.
Je me verrais mal dans le rôle.
Mettons. Mais des gens qui disent c'est un vote qui... Pas un vote perdu, parce que c'est un vote qui, quand même, veut dire quelque chose, là. Mais j'ai le choix entre des conservateurs puis des libéraux. Puis moi, je veux pas avoir, par exemple, un parti qui compte l'environnement. J'aime mieux avoir, tu sais, un parti qui décide. Pas juste un parti qui soutient ou qui ajoute. Ou...
Je dirais deux choses. La première, prendre le pouvoir et exercer le pouvoir, c'est deux choses. Un Bloc québécois dans un gouvernement minoritaire va exercer énormément de pouvoir, d'une part. D'autre part, c'est pas pour rien que les parades amoureuses se multiplient au Québec depuis une couple de jours. On a l'impression de revivre le Love-In de 1995, où tout le monde débarque ici en disant « Oh, qu'on vous aime terriblement ». On nous aime un peu tardivement. Les fleurs et les bonbons arrivent sur le tard. Mais c'est comme s'il y avait une espèce de panique. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'un Bloc fort va exercer énormément d'influence sur la politique canadienne. Sans ça, il serait pas venu prendre, M. Trudeau, deux jours dans la dernière semaine de campagne au Québec, alors qu'il est passablement plus dans le trouble dans d'autres régions. C'est parce qu'il pense que c'est ici qu'il peut se retrouver en position la plus délicate. Moi, je ne commente pas les sondages, mais on sent, on va appeler ça un élan, un intérêt, un enthousiasme, une curiosité des Québécois pour ce que le Bloc québécois propose. Et ça, ça se peut que ça inquiète les autres formations politiques.
Comment ça se fait qu'on ne parle pas durant cette campagne, ou presque, de tout le dossier du vol d'identité? Les Québécois sont inquiets. On s'est fait voler chez Desjardins, Capital One, puis la liste va s'allonger.
Equifax, c'est épouvantable. C'est la moitié des Québécois ont vu leurs données personnelles volées. Je m'étonne d'abord parce que il est assez difficile de faire une campagne électorale qui porte sur les vrais enjeux. Moi, ou sur les contenus, ou sur les propositions, et ça devrait être ça. Nous, on s'est ostinés. Hier encore, je faisais des propositions qui sont passées inaperçues. Pourquoi? Parce qu'on était dans les Obama, puis les déclarations d'amour, puis les machins de tout le monde. Mais on va continuer à le faire. Et là-dessus, nous, on a fait une proposition qui... Je compare ce dossier-là à celui de Phoenix. La responsabilité d'un gouvernement à l'endroit du vrai monde. Les gens qui se lèvent le matin, qui s'en vont travailler après avoir été menés les enfants à la garderie, là... C'est le vrai monde. Quand tu payes même pas tes salaires, tu peux pas faire la morale à personne. Puis en matière de sécurité des données, nous, on s'est dit, écoutez, on va prendre ça de façon simple et compréhensible, puis on va s'arranger pour que ça se passe comme ça, puis on va mettre la pression, puis je vois mal les autres être contre. Un, augmenter les mesures d'identification des clients des banques pour être sûr de limiter les risques de fraude. Deux, quand il y a une fraude, quand il y a un vol de données, être obligé de le déclarer immédiatement à la personne victime du vol d'identité ou du vol de données, et d'avoir dans le rapport à la fin de l'année d'une banque, voici le nombre de cas qu'on a eu.
Mais c'est parce qu'au Canada, on a l'impression qu'il n'y a pas de conséquences. Equifax est condamné aux États-Unis, au Canada, rien.
Les banques puis les institutions financières ont l'air de marcher main dans la main avec le gouvernement fédéral. Puis l'autre affaire, c'est si ça coûte de quoi aux contribuables, aux citoyens ou aux clients, bien, il faut que la banque paye. Puis l'autre élément qu'on a ajouté tardivement, qui me semble important, c'est un employé d'une banque qui a une conscience puis qui voit un vol de données qui n'est pas déclaré par la banque, il peut le dénoncer de façon anonyme. Il faut mettre en place des mesures qui vont protéger, dont, et en particulier, les plus vulnérables. Tu sais, la banque en ligne, là, pour ma mère de 85 ans, c'est pas une évidence. Et c'est beaucoup là que les vols de données se font.
Avez-vous déjà pensé à devenir chef du Parti québécois?
Tous les gens qui ont été députés d'un parti politique ont pensé à en devenir le chef. On est toujours certain d'être meilleur que tout le monde. Mais non, j'ai jamais eu l'intention de devenir chef du Parti québécois et je n'ai toujours pas l'intention.
Donc, vous serez pas candidat.
Non. J'ai accepté en toute connaissance de cause le mandat d'aller à Ottawa faire ce bout-là du travail avec les limites dont je suis conscient. Je suis un indépendantiste affiché. Je sais que c'est pas l'enjeu de l'élection du 21 octobre. Et je pense qu'on a abordé tout ça d'une façon... On s'est impatienté à force de pas réussir, puis on a essayé de passer notre idée dans la gorge du monde un peu de force ou avec des incantations, alors qu'on devrait peut-être plus les écouter sur qu'est-ce qu'ils pensent que ce serait ce projet-là.
Je lisais une entrevue que vous avez accordée, puis l'impression que ça donne, c'est... L'humilité, c'est pas ma tasse de thé. J'ai été obligé comme un peu de m'ajuster.
En un cours intensif.
Ouais.
Ben, en fait,
d'être humble et de faire des sourires.
C'est plus facile quand le monde eux-mêmes, les gens eux-mêmes sont souriants. Tu sais, lorsque les gens viennent te voir, puis te saluent, puis te parlent, puis t'encouragent, t'as pas envie de faire le coq de basse-cour. Au contraire, tu fais comme, waouh, c'est bien le fun. Et ça, je pense que ça nourrit. C'est le manque d'humilité, c'est peut-être une espèce d'ambition qui va plus vite que celle des gens puis celle des citoyens. J'ai jamais été aussi dur que la réputation le prétend, puis elle a été largement nourrie par l'appareil média parce que c'était payant, c'était spectaculaire d'être le goon qui veut manger la face à tout le monde. La vraie vie, c'est que je suis un gars plutôt tranquille, pas très belliqueux de nature.
M. Blanchet, bonne fin de campagne. Merci d'être venu ce matin.
Merci infiniment.
Yves-François Blanchet, qui est le chef du Bloc québécois, 7h38.